c'est encore sur le sujet de l'Oyada. C'est Halakha qui dit que il y a une mitzvah de s'embrumer jusqu'à ne plus savoir la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Alors, en fait, on va essayer, d'après un enseignement du Gaon, dans son commentaire sur Michelet, tout le nes de Purim, il a eu lieu parce qu'il y a en fait deux dévoilements, deux façons de gouverner le monde, deux façons qu'a Hachem de gouverner le monde. Deux anagot qu'on peut appeler Chesed et Din. Un selon un principe de tendresse et l'autre selon un principe de rigueur. Le Gaon, dans son commentaire sur Michelet, il dit la chose suivante. Alors il dit, la ville, elle va se réjouir du bien qui va toucher les tzadikim, et aussi de la destruction des rechaïm, ça mettra les gens en joie. Parce que quand Akadosh Baruch Hu sauve les Bnei Israël des mains des ennemis, c'est marqué au début, Goel Otam, ou Metiv Lahem, il les sauve, il leur fait du bien, et ensuite, Nokem et Nikmatam, mais Atsarim, et ensuite, il les venge du mal que leur ont fait ceux qui leur ont fait du mal, effectivement. Comme c'était le cas en Égypte, au début, Hachem a sauvé les Bnei Israël. Au début, donc, il a sauvé les Bnei Israël, il leur a fait du bien. Ensuite, il a fait en sorte que les Égyptiens se noient dans la mer. Et ensuite, il en va de même de ce qui s'est passé avec Haman. Au début, il a commencé par faire du bien à Mordechai. Ensuite, il a fait tomber Haman et on l'a pendu. Et quand il faisait du bien au Tzadikim, alors toute la ville était en joie. Elle exultait, elle était en joie. Mais il y avait encore, il y avait des problèmes encore, et il y a des gens qui ne remerciaient pas encore vraiment Hachem. Mais finalement, quand le problème s'est complètement résolu et quand tous ceux qui voulaient leur faire du mal ont été sanctionnés, alors c'est ça, dit le Gaon, le bien qui est fait au Tzadikim, ça met la ville en joie. C'est marqué, la ville de Shushan a exulté, elle s'est réjouie. Et ensuite, Kacher, lorsque Hachem nakam meoyvehem, quand Hachem s'est vengé de leurs ennemis, azaita rina, Là, à ce moment-là, il y a eu de la joie, comme la joie qu'il y a eu au passage de la mer. Et aussi à Purim, et le sod, le secret, c'est, comme Chazal le disent dans le Zohar, que Simcha le matin et exultation le soir, c'est ce qu'on veut dire ici, Avraham Yagel, Yitzhak Iranen, la Gila et la Rina. C'est pour ça que on dit Betov Tzadikim, c'est le Chesed, faire du bien au Tzadikim. Az, alors, Ta'alot Kiria, c'est le texte de nos Michelet, la ville se réjouira, elle explosera. Ou Beibud Rechaim, dans la destruction des Rechaim, c'est-à-dire la Milatadin, alors Rina, chez Uber Ramsha, alors il y aura la joie de qui a lieu le soir. Bon, ça c'est le commentaire du Gaon. On voit en tout cas de ce qu'il dit ici que le sauvetage de Purim s'est fait selon un principe de Chesed et de Din. C'est-à-dire, il y a eu dévoilement de Chesed, dévoilement de tendresse, la tendresse. Comment? C'est dans l'élévation de Mordechai. Et il y a eu un dévoilement du Din, de Minata Din, qui est dans la Nekama contre Aman. En fait, on trouve les mêmes idées dans le commentaire du Maharam Shif à la fin de Masechet Chulin. Il écrit Esther Amra, Yavo Amelech Ve'aman Hayom. Yavo Amelech Ve'aman Hayom. Vous voyez les premières lettres de Yavo Yud, Hamelech, Hey, Vehaman, Vav, Hayom, Hey, vous avez vu, c'est le tétragramme, les quatre lettres du Shem Hashem, qui est le Shem Havaya, disons avec les initiales de ces mots-là, et que ça montre, c'est le Shem Hashem, le nom divin qui indique le rachamim, qui indique la tendresse divine. Et Haman, lui, voulait le din, parce qu'il disait « Ze eneno shove li » ça c'est les lettres à l'envers, enfin c'est les dernières lettres. Zé, les dernières lettres et le schéma à l'envers. Zé, ça finit par He, Enenu Vav, Shave He, Li Yud. C'est les dernières lettres qui indiquent le nom divin, mais lu à l'envers. Donc, d'après ce que dit le Maharam Shif, ça veut dire que ce que voulait obtenir Aman, il voulait amener le din contre le clan d'Israël. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il a vu que quand il était au deuxième rendez-vous, au deuxième michté, où Esther l'avait convié également, et où Esther s'est dévoilée. Et quand le roi a dit « Miouzé, Vézéou, mais qui est-ce qui a eu un projet pareil ?» et que Esther a dit « Mais c'est Aman. » Alors, Aman s'est jeté au pied de... Enfin, en réalité, il s'est jeté sur le lit de la reine Esther, parce que « Ki kalta elav hara'a » Or, les dernières lettres de Ki, Yud, Kalta, He, Elav, Vav, Araa, He, c'est toujours ce tétragramme à l'envers. Mais bon, ça s'est retourné, le din, il est tombé sur Haman, c'est-à-dire du Rachamim sur Israël. On voit ici que le processus de sauvetage, le sauvetage miraculeux de Pourim, il est en ce que le din frappe Haman et le Rachamim touche l'Ibn Israël. Donc le Gaon nous explique que quand Chazal disent Hayavinish le bisume bepuria ad de loyada ben Arur Haman Baruch Mordechai, que l'homme est obligé de s'embrumer ou se apurim jusqu'à ne plus savoir la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, c'est-à-dire que le processus de Avoda du jour de Pourim. L'Avoda, c'est ce que nous devons faire à Pourim. C'est la Midatzmo Bedarga Sheba En Metziut Lera Klal. Elle est Akol Tov Gamour. C'est-à-dire, il faut créer une situation où le mal n'existe plus du tout. Tout était tov, un tov gamour, tov absolu. Parce qu'à Pourim, c'est le jour où a été fixé quelle sera la réalité du monde, de ce monde dans lequel on aura annihilé, anéanti complètement Amalek. Or, Amalek, c'est la racine de toute l'existence du mal dans le monde, comme on le sait. Il y a des kabbaliste relativement récent qui a écrit que Amalek, c'est le Nahash, c'est le serpent de Bereshit, comme c'est marqué dans Chazal, qui Mishoresh Nahash Yatsa Tsafa, ce qui est Amalek. Et Aman Arasha, sa racine est également dans le mal, est enraciné dans le mal du monde. C'est-à-dire dans la faute d'Adam Arishon. Comme la Gemara dit dans Chulin, où la Gemara demande Aman mina Torah minayin. La Gemara, comme vous savez, elle demande, elle l'a demandé sur Esther, elle le demande sur Aman aussi. Elle demande, étant donné que dans la Torah, tout est mentionné dans la Torah, évidemment, il faut prendre la Torah avec toute la richesse de la Torah, bien sûr. Alors on a demandé, ben, où se trouve Aman dans la Torah? Alors Aman, ça s'écrit « He min » He mem nun, et he mem nun, vous pouvez le lire ha min. Et vous entendez ici ha min ha etz, c'est la question qu'Hachem a posée à Adam Arishon, quand Adam s'était caché, etc. Alors Hachem lui a dit, mais est-ce que tu as mangé, ha min ha etz, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger le fruit. Alors, on dit Haman min haTorah, ben justement, dans Hamin haEtz, le Marcho, dans son commentaire sur la Gemara dans Chulin, il dit que Haman, dire que Haman, il est dans la Torah sous forme d'allusion. Enfin, la graphie Haman, elle existe dans la Torah. Elle ne se lit pas Haman, elle se lit Hamin. Mais la graphie, elle est là. Et donc, mettre, ce n'est pas dû au hasard, ce n'est pas par hasard que l'allusion à Haman dans la Torah se trouve dans le récit de la faute d'Adam Arishon. Dans l'histoire avec le Nahash, à la séduction du Nahash. Pourquoi? C'est parce que justement, il venait d'Essav, en fait, donc d'Amalek, dont la force vient du Nahash. La force pour faire du mal, elle vient du Nahash Akadoni, elle vient du Nahash initial, du serpent originel. À Purim, il s'est passé quelque chose comme une élimination du mal dans le monde. Et donc maintenant, nous, quand on doit vivre Purim, qu'on doit faire la avoda de Purim, alors il faut qu'on s'élève et se mettre dans cette situation pour un certain temps, se mettre dans la situation où il n'y a plus de mal dans le monde. Il n'y a plus que du tov, plus que du bien. Tout le mal a disparu. Et du coup, dans le monde, il n'y a plus du tout place pour les deux anagotes, deux façons de diriger le monde qui correspondent à Gedoula d'un côté, c'est la Gedoula de Mordechai, et la Nekama, la vengeance, donc c'est le Arur Haman. Alors, c'est vrai que le processus de sauvetage d'Ebnei Israël à Purim, il a bien eu lieu avec ces deux anagotes de Chesed et de Din, comme on l'a expliqué. Mais malgré ça, le Shoresh Advarim, dans la racine des choses, c'est-à-dire qu'au fond, au fond du fond, en quelque sorte, la gouvernance cachée du monde, c'est une gouvernance dans laquelle il n'y a que du bien, il n'y a que du tov. Le mal n'a pas de place du tout dans le monde. Et comme à Purim, c'est le jour, comme on a dit, de l'éradication du mal dans le monde, alors il nous incombe dans notre avoda à Purim de nous élever jusqu'à un niveau où le mal n'existe plus, où on voit que il n'y a que du bien. Alors, s'il n'y a que du bien, il n'y a pas de place pour la Naga de la Nekama. Bon, je ne sais pas si c'est à vous qu'on a déjà parlé de ça, de la Nekama. J'ai parlé de la Nekama avec vous? Oui, non? Non?
Non.
La Nekama, c'est la vengeance, oui. Alors, vous savez bien que nous, on n'a pas le droit à la Nekama. On n'a pas le droit de se venger. C'est un issur. Néanmoins, Hachem est présenté comme quel Nekamot, comme un dieu vengeur. Alors, où est-ce qu'on trouve cette idée de vengeance dans la Torah? Juste avant la ptira de Moshe Rabbeinu, la dernière mitzvah qui lui est donnée, c'est, Hachem lui dit, venge les Bnei Israël de... Enfin, prends la vengeance des Bnei Israël contre Midian. Ça, c'est ce qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va dire aux Bnei Israël qu'ils prennent leur vengeance sur Midian. Mais quand Moshe parle aux Bnei Israël, il dit, nous, on va prendre la vengeance d'Hachem contre Midian. Hachem, il a le souci de donner de permettre la vengeance des Bnei Israël. Et les Bnei Israël, ils ont le souci, enfin, Moshe Rabbeinu, a le souci de permettre à Hachem de prendre la vengeance. Qu'est-ce que c'est la vengeance? La Nekama, on voit que Hachem a fait un chesed avec Abraham, avec Moshe Rabbeinu. Il lui a permis de prendre la revanche, de prendre la vengeance, de se venger de Midian. Ça veut dire quoi? De faire payer à Midian ce qu'ils ont fait au Bnei Israël. Midian, ce sont ceux qui ont prostitué leur princesse pour faire tomber les Bnei Israël, alors qu'eux n'avaient rien à craindre. Il n'y avait pas de, risque. Il n'y avait pas de risque. Midian n'était pas du tout en danger. C'est Moab qui avait peur. Et Midian, ils sont venus faire du mal au Bnei Israël. C'est tout. Alors, nous savons bien, c'est notre Emouna, que celui qui fait du mal, il va être sanctionné. Seulement, la plupart du temps, on ne voit pas la sanction. Ou bien elle n'a pas lieu de notre vivant, ou on ne s'en rend même pas compte, ou bien c'est ailleurs dans le monde, etc. Hachem a fait un chesed à Abraham en lui permettant de vivre cette nekama, de vivre cette réalité que le mal ne triomphe pas. On peut pas, c'est intolérable que le mal triomphe. Il faut bien qu'il soit sanctionné. Alors, encore une fois, notre Emouna, c'est qu'il sera sanctionné, même si nous on ne le voit pas, même si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, même si ce n'est pas de notre vivant, ce sera plus tard. Mais Hachem, il sanctionne toujours le mal. Et donc, il y a toujours une nekama à l'échelle d'Hachem. Si vous voulez, par principe, il y a obligatoirement une nekama chez Hachem. Parce que sinon, ça voudrait dire que le mal a triomphé. Donc, Hachem ne serait pas tout puissant. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on dit Arur Aman, littéralement, ça veut dire Arur, c'est la malédiction. Et on a vu que Arour, bénédiction, c'est aussi, on peut aussi dire le Kalel. Et dans le Kalel, on voit mieux que c'est construit sur Kal, qui veut dire léger. C'est rendre l'autre quantité négligeable. C'est ça le Kalel. C'est la même chose pour Arour. C'est-à-dire néantiser quasiment l'autre. Alors comment est-ce qu'on le... On l'annule, on le... justement, en prenant la Nekama. Il a cru pendant un moment qu'il était gagnant, Haman qui croyait... Alors, c'est, si vous voulez, on voit très bien le, dans le récit de la Megillah, il y a une croissance qui va jusqu'à la, l'érection de la potence de 50 amot pour pendre Mordechai. Je conseille que la délicieuse Madame Zeresh a donné comme conseil à son mari. Bon, il fait une potence de 50 amot, 25 mètres. Comme ça, on le voit de partout. Bon, jusque-là, Haman est triomphant. Il vient pour avoir l'oreille du roi pour pendre Mordechai. À ce moment-là, tout tourne. Et à ce moment-là, le roi le fait entrer. Lui qui est venu pour parler le premier au roi pour obtenir la pendaison de Mordechai. Donc le roi lui demande comment est-ce qu'on peut honorer, ben, vous connaissez cette affaire. Et lui, il n'a pas de doute. Qui est honorable dans ce pays, si ce n'est moi? Et donc, il donne, il dit à Ahasvéros que lui, il voudrait. C'est-à-dire, il voudrait se faire prendre pour le roi. On l'a déjà dit plusieurs fois, le peuple, il ne connaît pas le roi. Le roi, il passe dans son char, dans son carrosse ou bien sur son cheval à toute vitesse. Personne ne voit vraiment le roi, on voit seulement une figure qui éventuellement a une couronne ou il a des signes extérieurs du fait qu'il est roi. Et il a le cheval du roi. Qu'est-ce que Haman demande? Ben, Haman, il veut être sur le cheval du roi. Et on va marcher très lentement. On va aller au pas. Et on va ameuter tout le monde pour que tout le monde voit bien qui est sur le qui est le roi. Il se fait prendre pour le roi par le peuple à ce moment-là. Le peuple qui ne connaît pas le roi, il voit qui est-ce qui est sur le cheval royal. Alors, ils ont le temps de voir le visage de Haman, qui prennent probablement pour le roi. Bon, c'est ça que Haman voulait. Tout le monde a bien compris, y compris Ahasvéros d'ailleurs, que ce qu'Aman voulait, c'est prendre sa place. Donc, tout monte, et puis ensuite, il va retomber. Un peu comme le même processus que dans qui arrive aux cavaliers, aux chevaux et aux cavaliers des Égyptiens dans la mer. Ils sont soulevés comme ça, puis ensuite, ils retombent complètement. Donc, il y a un nekama. Arour, c'est-à-dire pouvoir penser la nekama, penser la chute d'Aman. Et comprendre que la chute d'Aman, c'est une nekama. C'est en quelque sorte, c'est quelque chose qui vient annuler les tsarot d'avant. De même qu'on va annuler les tsarot de Enfin, on va essayer de les annuler, les tsarot de Haman. C'est très difficile à annuler. C'est intéressant parce que là, en l'occurrence, dans la Haggadah, on voit, dans la Megillah, on voit que les décrets d'Aman ne sont pas annulables. Pourquoi? Parce qu'ils sont signés à Achashverosh. Aman, quand il faisait quelque chose, il signait à Achashverosh, puisqu'Achashverosh lui avait donné son sceau. Donc les documents, tous les documents conçus par cette crapule de Aman étaient signés, scellés à Achashverosh. Et comme Achashverosh se prend pour Dieu, ben, on ne peut pas l'annuler. Comme vous savez bien, il n'y a pas eu d'autre possibilité que de dire aux Juifs, eh bien, voilà, le 13, ils vont se lever pour vous tuer. Vous n'avez pas d'autre solution que de vous lever avant eux et les tuer avant qu'ils ne vous tuent. Il n'y a pas d'autre solution. Puisqu'on ne peut pas rapporter les décrets de Haman. Alors, il faut des contre-décrets qui disent aux Juifs de se défendre, qui les avertissent de ce qui va se passer, de telle sorte qu'ils puissent prendre des mesures pour se défendre. Ça aussi, c'est... Il faut comprendre, parce que c'est une question sur laquelle il faudrait peut-être réfléchir, que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas, ces décrets ne peuvent pas être rapportés, ne peuvent pas être annulés. Donc ça veut dire que dans les archives perses, il y a encore des décrets qui sont là, qui sont valables, mais bon, ils n'ont pas la bonne date. Mais quelque part, c'est comme si on disait, bon, il suffirait qu'on magouille un petit peu les dates, et puis on pourrait, voilà, Haman est toujours à l'œuvre. Imaginez, là, que Khomeini vient et change les dates. Bon, il n'y a pas 127 provinces, mais... En tout cas, c'est ça. Il s'agit, le jour de Pourim, pour nous, de vivre, donc de créer des conditions dans lesquelles il n'y a plus de mal. On se met dans cette situation-là. Alors, dans une célèbre introduction du Netivot HaMishpat, des grands ouvrages à l'Afrique, Parshat Mishpat, et il explique, lui, il a un commentaire de Megillat Esther et il dit « Od yesh lefaresh ki ne Hashem Yitbarach mechune b'shtei midot b'shem rachum ou b'shem kano. » Il est rachoum, c'est la tendresse, mais aussi la kina. Marqué, quel kana, ushtim idot elu, ayunikarim. Et ces deux midot, elles étaient reconnaissables alors. le Rachamim, il a été reconnaissable dans la mesure où Hachem a sauvé Mordechai et Israël. Et la Kanaout, c'est l'autre nom de Nekama aussi, c'est dans la destruction d'Aman. Et il dit, dans la Geoula Atida, dans la Geoula finale, lorsque le mal sera éradiqué du monde, il n'y aura plus que le Tov, alors Akadosh Baruch Hu sera reconnu avec cette seule mida de Rachamim. Alors lui, il dit là-bas, il dit que les midot sont appelés Merkava. Les midot sont des chariots, sont des vecteurs. Et aussi, c'est appelé aussi mita. C'est marqué « Iné mitato » chez les Shlomo. Donc, le lit. Et puis, cette idée de « Chaya madame les besoumé ». Les besoumé, les bisoum, c'est une expression qui veut dire « adoucir » en quelque sorte. Et on dit ici Apurim chayav adam libesume bepuria, c'est-à-dire l'homme doit être mamtik, il doit adoucir les midot jusqu'à ce que il n'y ait plus de différence entre la mida, c'est-à-dire entre la façon de gouverner le monde qui s'appelle kina. C'est-à-dire cette mida, cette façon de gouverner le monde qui s'exprime par la destruction d'Aman, de telle sorte donc plus de différence entre cette mida-là et la mida de Rachum qui se manifestait par la Gdoulat Mordechai, par l'élévation de Mordechai. C'est ça qu'on dit quand on dit Baruch Mordechai. Béni soit, donc ça veut dire élevé soit Mordechai. Et ça, on peut bien le comprendre si on, par rapport à cet enseignement du Gaon, on peut encore ajouter la chose suivante. Chayav Adam b'Israël, la midatzmo b'purim, et prina chez Kulotov. Donc, l'homme a l'obligation de se mettre à Purim dans la situation de qui est entièrement tov, entièrement bonne. Une situation dans laquelle il n'y a pas de place pour le mal du tout. Le Maharal, dans l'introduction de son Sefer, donc sur Purim, il dit pratiquement la même chose que ce qu'on a vu du Maharam Shif. Il dit, Mordechai, comme ça vous le savez probablement, c'est assez connu, que Mordechai, quand on demande, et Mordechai, où est-ce qu'il est dans la Torah? Et le Nirmaz, il y a fait allusion dans la Ktoret. Mordachi, c'est une des composantes. Esther, il y fait allusion dans le Inyan de Esther Panim. Anochi, Esther Astir Panai. Pourquoi? Parce que Israël était à ce moment-là lié, ils étaient quasiment esclaves de Achashverosh. Et plus tard, quand en fait le véritable maître du royaume c'était Aman, ils étaient quasiment esclaves d'Aman. Et comme justement ils étaient au temps de Aman et qu'on était dans un Esther dans Esther, c'est-à-dire dans Esther de chez Esther, quoi, comme on dirait aujourd'hui. Il fallait donc que la libération ait lieu grâce à la reine Esther, donc, qui, ici, le Esther, c'est la chaune, l'Issater se cachait, c'est-à-dire, c'est la mida de Tzniut, d'Esther. Du coup, la prière d'Esther, elle est arrivée à cet endroit qui est Esther, Elion, c'était Elion. Et à cet endroit-là, il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir de Haman n'existe plus. C'est à une telle hauteur que le mal n'existe plus. Donc Haman n'existe plus à cet endroit-là. Et comme le Maharal ou le Maharal Shift, on a vu ici, disent que la racine du sauvetage des Bnei Israël à Purim, c'est une racine qui se situe justement dans cet endroit très élevé, mais qui est complètement caché, un endroit où la puissance d'Aman, la puissance du mal n'arrive pas. Il n'y a pas de koach du mal à cet endroit-là. Ici, on peut ajouter, le Nefesh HaChaim, il explique que quand l'homme Dabek atzmo, biyichudo apashut, umeshabed libo behemet l'aviv shebashamay. Quand l'homme colle littéralement à l'unité parfaite, et il plie son cœur, ça veut dire il se soumet entièrement. À Hachem, alors automatiquement toutes les forces du mal qui pourraient s'en prendre à lui ne peuvent plus rien lui faire, comme si il n'existe plus pour eux, donc ils ne peuvent plus faire aucun mal. Bon, c'est sûr que à Purim, l'homme doit se mettre dans cette situation où le mal n'existe pas. Puisque tout la racine de la Yeshua, la racine du sauvetage, elle vient de cet endroit-là, elle vient de cet endroit très haut où il n'y a plus de place pour le mal. Le mal n'a absolument aucun impact. Pour ça, ce jour de Purim, où le mal est annulé complètement, où il ne, n'a plus aucun pouvoir. Alors, le yesod, le fondement, la racine, c'est là ce que Chazal l'ont exprimé, en fait, cette nécessité de se mettre dans un espèce de brouillard, ou bien par l'alcool ou par le sommeil, jusqu'à ne plus avoir la différence, justement, entre les deux midot, parce qu'il n'y a plus deux midot. Il n'y a plus que le tov. Le mal n'existe plus. Donc, quelque part, ça veut dire que dans la journée de Pourim, il y a un moment, a priori, c'est traditionnellement, c'est au moment où, donc si ça se fait avec du vin, ça se fait dans le cadre de la Seudat Pourim, il arrive un moment où on sort du monde, en quelque sorte. C'est-à-dire où on est dans un monde dans lequel il n'y a pas de différent, enfin, il n'y a plus que du bien, plus trace du mal. C'est ça qu'il faut essayer d'arriver à faire. Comme c'est effectivement difficile à faire, par le vin, c'est assez difficile de trouver juste pour chacun d'entre nous la quantité d'alcool nécessaire à nous embrumer suffisamment pour que on puisse oublier l'existence du mal, entraîner, se changer de monde en quelque sorte. Peut-être qu'il vaut mieux le faire en allant piquer un petit somme à ce moment-là. Ça fait partie des... C'est une façon moins glorieuse peut-être de le faire, mais on n'est pas obligé de chercher la gloire. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui pour cet enseignement.